BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Bienvenue à toutes et toutes pour cette nouvelle édition de Tout pour investir sur BFM Business, en direct à la radio, à la télé, sur le web bien sûr, podcast replay pour retrouver l'essentiel de nos rubriques, où on va beaucoup parler de vous aujourd'hui. C'est TPI aujourd'hui qui va être vraiment consacré une grande partie de l'émission à décortiquer le dernier baromètre de l'épargnant Odoxa, avec Marion Chapelle-Massot de Carillon, Mireille Wimbert et Gaëlle Slimane d'Odoxa, qui a compilé ces données alors riches d'enseignements. Deux sujets à la une, enfin trois. Déjà, coup de froid, très très net, sur l'état d'esprit de vous, investisseurs, épargnants, et puis vos sujets de crispation, l'Iran, la guerre bien sûr, mais votre PER et votre fiscalité. Ça, c'est un point particulièrement épineux qu'il va falloir gérer. Tiens, cette saison, on a ouvert la période des déclarations d'impôts. On vous en parlait hier avec Christian Fontaine du Revenu, mais tout cela a un impact quantifiable et va avoir un impact quantifiable sur la durée. On va éclaircir tout ça avec nos déchiffreurs du jour pour bien occuper le terrain. Arbitrage sur les marchés actions ce matin, ce sera avec Valentin Nico de Bourse Direct. Ça tangue sur les marchés à nouveau, notamment autour du secteur du luxe. Alors après les résultats de Kering et d'Hermès, enfin les chiffres d'affaires trimestriels, très forte baisse à l'ouverture, baisse historique d'ailleurs pour Hermès. On va détailler tout ça. Deux sujets de fond qui vous passionnent pour terminer. L'aromètre, encore un, de l'université de Stanford sur le développement de l'intelligence artificielle, des investissements en matière d'IA, de l'adoption, de la disruption. Détailler tout ça avec Vincent Aurès de Figen IA. Et puis un qui vous passionne visiblement, là on parle de vos petits trésors, de vos petits plaisirs. Vous êtes de plus en plus passionné par la rétro high-tech. Alors on avait déjà parlé du rétro gaming, les consoles qu'on avait quand on était petit, qui atteignent des prix fous maintenant sur le marché de la seconde main en ce moment. Et bien maintenant c'est toute la vieille high-tech rétro qui vous passionne. Les vieux Walkman, les vieux Ghetto Blaster, votre vieux Nokia 3210. Ah oui, vos iPods que vous retrouvez, qui marchent toujours avec une playlist du bon vieux temps qui est toujours dessus. Plongée passionnante dans la high-tech rétro avec Valentin Klein Di Giacomo. En fin d'émission, vos questions, vous pouvez nous les poser par mail direct@bfmbusiness.fr. Nous envoyez un SMS au 73216, vous tapez le mot-clé business suivi de votre message. Puis vous pouvez me contacter directement sur Twitter et LinkedIn, et puis on essaiera de répondre à vos questions au fur et à mesure. Le reste de l'actualité du jour, on vient d'en parler, les ventes trimestrielles d'Hermès, qui n'échappent pas du secteur. Les ventes ressortent alors en légère baisse à 4 milliards 100 d'euros en taux de change constant. Vraiment tout juste sous les attentes. Même chose d'ailleurs pour Kering hier soir lors de la publication de ses chiffres de vente. On était un peu sur les mêmes fondamentaux d'ailleurs lors de la publication des ventes d'LVMH en début de semaine, mais là où les marchés avaient plutôt été cléments, avec LVMH, la séance d'hier. Là, c'est la douche froide ce matin. On a eu une baisse de plus de 13% pour Hermès à l'ouverture. Bon, là, ça se calme un petit peu, moins 8,4%. Kering est aussi en baisse, moins 8,9%. Mais il est clair que les valorisations commencent à être très, très élevées pour des performances qui marquent quand même le pas, et le marché en prend acte. Gros coup de sabre chez Renault, le constructeur va supprimer 15 à 20% de ses postes d'ingénieurs qui étaient mis sous pression depuis l'arrivée de François Provost. Objectif, rester compétitif. 2000 créations de postes à l'inverse chez Amazon France pour la construction d'un nouveau centre de distribution. Ce sera l'un des plus grands d'Europe. 189 000 m² sur 3 niveaux dans une commune du Haut-Rhin. L'investissement se chiffre à 250 millions d'euros. Amazon confirme son offre à presque 12 milliards de dollars pour Globalstar, un opérateur américain de satellite, ce qui viendrait renforcer la position d'Amazon Leo face à Starlink d'Elon Musk. Un décret dans les tuyaux en France face à la hausse des prix du carburant. Matignon vient de saisir le Conseil national de la consommation pour un avis. L'idée serait de plafonner, alors pas les prix, mais bien les marges des distributeurs. Et au regard de l'inflation provoquée par la hausse des carburants, il va sans doute falloir rouvrir des négociations commerciales dans le secteur alimentaire. C'est ce qu'affirme Serge Papin, le ministre du Commerce. Et puis, cette fois, c'est la bonne pour le projet de loi de simplification. Il devrait être définitivement adopté aujourd'hui au Sénat après le feu vert des députés hier, qui ont réussi en dernière minute à supprimer les fameuses ZFE, les zones à faible émission du centre-ville de certaines municipalités. Ça a été supprimé du texte contre l'avis du gouvernement. Allez, tout de suite, votre tableau de bord.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Bon, et une baisse des marchés, ça, on n'allait pas y échapper. 0,43% pour le CAC 40 qui est en ce moment à 8292 points. À noter qu'on signe une contre-performance majeure par rapport aux autres places européennes. Regardez, Francfort est dans le vert, hein, plus 0,17%. On a également une baisse vraiment très légère de l'Eurostoxx 50 à moins 0,14%. Donc du coup, très nette sous-performance du CAC 40. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le secteur du luxe est en très forte baisse. On l'a dit, hein, des résultats. Alors vraiment, un tout petit peu en dessous des attentes pour Kering, pour Hermès en matière de vente hein, sur le premier trimestre. Mais voilà, c'est globalement une contre-performance historique pour un certain nombre de paramètres comptables hein, sur ce secteur du luxe qui commence à être très très bien valorisé. Hein. On est au-delà, bien au-delà des 30 de PER pour Kering comme pour Hermès. Et donc du coup, la réaction des marchés est assez violente, même si fondamentalement, on a fait état à peu près des mêmes choses du côté d'LVMH. Mais LVMH qui a une valorisation qui est quand même moindre hein, du côté des 20 en matière de PER. Donc du coup, il y a une sorte d'écrémage mathématique hein, autour de Kering qui a perdu 9,5% à 253,20€. Puis il faut dire que le titre n'arrête pas de se redresser et de prendre en compte dans les cours un redressement de la marque Gucci, bon, qui est espéré, mais qui pour l'instant est loin d'être probant. Et Hermès, hein, de son côté, perd 8,4%. On est à 1632€. Parmi les autres secteurs qui sont un petit peu attaqués aujourd'hui, l'aéronautique, on a Safran qui perd 1,8%, 311,60€. Airbus, moins 0,7€, on est à 171,48€. Et puis Total Energy qui baisse encore. Ben oui, regardez quand même, c'est spectaculaire du côté des prix du brut. $95 pour le baril de Brent de Mer du Nord. On a corrigé de $5 en quelques jours. Et le baril de brut léger américain se rapproche des 90 à nouveau. On est à 91. Donc, du poids sur les valeurs pétrolières. Et ça se sent un petit peu partout. Du côté des titres qui fonctionnent mieux, ben la techno. Figurez-vous que l'Euronext Tech Leaders gagne, lui, 0,87%. Donc on a vraiment un contraste avec le reste de la cote, notamment la cote à Paris, qui sous-performe. Mais voilà, on a ST Micro, plus 1, 35,14, Capgemini, plus 0,96, 105,70, Soitec, encore plus 4,6%, quelle performance astronomique, hein, on est à 75,74€, Worldline aussi, plus 4,7% à 25 centimes. Et parmi les plus fortes baisses du SBF 120, le secteur du luxe, ça on en a parlé, mais à noter Sodexo aussi qui baisse de 2% à 39,04. L'euro, 1,1788. On continue de gagner des points face au dollar avec une grande fermeté. Un petit coup d'œil sur le Bitcoin. On reste à peu près sur les niveaux de ces derniers jours du côté des $74,000. Et l'or, l'once d'or fin qui reste en embuscade. Alors, Andrea Tueni de Saxo Bank nous en parlait hier. Il y a une résistance technique du côté des $4,850 pour l'once d'or fin. On en est juste en dessous en embuscade. 4839. Allez, on déchiffre l'actualité du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Et on déchiffre, alors il y a du monde en plateau. Nous avons Marianne Chapelle-Massot de Decarion. Bonjour. Mireille Wimbert des établissements Mireille Wimbert. Bonjour, merci d'être Antoine. Là. On attend Gaël Slimane qui devrait arriver dans quelques instants. Bah ouais, on l'attend d'autant plus qu'on a avec lui le baromètre de l'épargnant français. Alors, tout ce qu'on peut déduire déjà dans un premier temps, c'est, voilà, il y a deux mots clés qui commencent à faire un petit peu peur au marché et aux épargnants. Et Gaël Slimane vient de nous rejoindre. Bonjour Gaël, merci.
Bonjour
d'être
Antoine.
Là. Deux mots clés hein, qui commencent à crisper un petit peu l'ambiance de manière générale. Iran, ça on n'avait pas trop de doutes, mais PER, dites donc.
Livret et PER. En fait, les mots-clés, c'est la conjonction de deux facteurs. Un marteau, une enclume.
On est bien là.
Le conflit en Iran, la guerre en Iran qui crée des espèces de panique totale dans tous les domaines, et y compris sur les sujets de patrimoine, d'épargne, les gens sont très inquiets.
Long terme.
Voilà. Ouais. Et puis, on a l'autre élément qui est que les Français se disent les livrets, le PER, tous ces produits qui les enchantaient, qu'ils trouvaient formidables, ça ne donne plus de rendement, où il y a des nouvelles règles qui s'appliquent et qui ne leur correspondent plus bien à nos concitoyens. Et donc, la conjonction des deux éléments a fait que nos épargnants, ils épargnent moins. Alors, ils sont plus inquiets.
Ouais, c'est très curieux, ça, Gaël, dans le sens où, et puis on le dit à longueur de journée, et ça participe un petit peu à l'éducation financière à laquelle on essaie de participer dans cette émission, c'est, il y a véritablement, là, sur ces dernières semaines, un phénomène de knee-jerk. C'est-à-dire, voilà, c'est la guerre. Ouah, tout de suite, et contrairement à tout ce qu'on dit à longueur d'émission, ben non, oh, les marchés baissent, oh, c'est l'Iran, oh là là, vite,
voit pas comme
vite, je veux liquider mon PER.
C'est pas possible, hein, le PER.
Vous voyez ce que je veux dire. Mes investissements de long terme, je suis prêt à les liquider parce que c'est le stress.
Alors, c'est pas tant ça. C'est plutôt que le stress lié à la guerre fait que nos concitoyens nous disent qu'ils sont extrêmement inquiets. Je vous donne quelques éléments d'inquiétude sur la situation économique de la France. 92% des Français disent qu'ils se sentent plus inquiets ces derniers temps. Sur la situation, sur la fiscalité et les impôts aussi. Et donc, l'épargne n'échappe pas à cela. Et les épargnants sont 84% à se dire moins confiants sur le rendement de leur épargne à cause du contexte international. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cas-là? On pourrait se dire, l'une et l'autre, peut-être que c'est une opportunité pour essayer de placer son épargne sur des placements dynamiques, sur des... Non, les gens nous disent, là, c'est tendu, donc je veux plus de sécurité. Or, la sécurité, pour eux, ce sont les livrets, mais ça fait un moment qu'ils les désertent. Ça date d'avant la guerre en Iran, et depuis la baisse des taux sur le livret A, on est à une personne sur deux qui nous dit, que pour son livret A, par exemple, quasiment une sur deux, elle nous dit qu'elle l'a soit fermé, soit cessé de l'alimenter, et on est à presque 70% si on inclut ceux qui veulent le faire à l'avenir. Et on parlera du PER après, mais je ne veux pas monopoliser la parole, en arrivant en retard en plus.
Juste un dernier truc, Gaël, est-ce que le côté « j'alimente plus le livret A », c'est pas aussi doucement l'inflation, et puis il y a des factures à payer?
Alors, il y a ce paramètre-là, mais qui vient se télescoper avec « ça ne me rapporte plus rien ». C'est-à-dire que c'est une balance, non pas bénéfice-risque, mais avantage-inconvénient. C'est j'ai un truc qui me rapporte rien, j'ai des besoins, je suis pris à la gorge, donc effectivement, ça joue aussi.
D'accord. C'est une conjonction de facteurs. Marion Chapelle-Masseau de Carillon, vous, en tant que professionnel, vous voyez des gens arriver et vous dire oh là là, c'est il faut absolument que je liquide des trucs de long terme parce que là, les marchés sont en train de se crisper. Quand on les taux sont en hausse et finalement les placements de long terme sont plutôt rentables sur le papier. Le marché action, il est quand même super résilient par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est le battage de l'actualité qui crispe le plus les épargnants et les investisseurs.
Oui, c'est sûr qu'on note un moment anxiogène lié évidemment et amplifié par l'effet guerre. Mais je crois que ce que montre très bien le baromètre que nous évoquons aujourd'hui, c'est finalement que les Français ne sont plus à la recherche de rendement, presque, mais ils ne veulent plus perdre.
Ouais.
Et donc
ça
là,
c'est retour à la case départ par rapport aux chiffres qu'on avait il y a une dizaine de mois.
Oui, 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 ouais. c'est une crise de confiance généralisée qui dit quoi ? Qui dit que je ne veux plus perdre. Alors comment faire pour ne plus perdre ? Est-ce que je retire toutes mes actions ? Parce qu'évidemment, quand vous parlez d'actions, vous prenez des risques et donc risque veut potentiellement, en tout cas à court terme, peut vouloir dire perte, mais aujourd'hui non, on peut pas dire que les Français n'ont pas peur ou veulent profiter de certaines. Alors certains investisseurs aguerris peuvent noter ce comportement-là, mais autrement non. Non, on retourne à la case départ, ne veut plus perdre. Et comment fait-on aujourd'hui pour ne plus perdre, sachant que les placements type livret A, voire PER, fonds euro, etc., sont mis à l'épreuve avec l'inflation, ça ne rapporte plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a ces questions, évidemment, quotidiennement au cabinet.
Mireille Rimbert, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, voilà, écoutez, les épargnants, ils ont tout à fait bien compris quand le livret A, le taux a baissé indépendamment de la guerre, ils ont retiré massivement leur argent. En janvier-février, on a moins 3 milliards de collectes sur le livret A, c'est-à-dire qu'il y a 3 milliards en moins sur le livret A janvier-février. Gaël disait, il y a une désaffection, c'est lié effectivement à la baisse des taux. Maintenant, je dirais juste, attendons de voir la prochaine enquête. Pourquoi ? Dans les deux derniers conflits, moment du Covid, Au moment du Covid, le livret A, il est encore moins rémunérateur, il est à 0,75. Au moment de la guerre en Ukraine, il est à 1%. Et pourtant, ces deux éléments de stress pour les Français, eh bien, ils reviennent sur le livret A quand même, parce qu'ils privilégient à ce moment-là la sécurité. Donc, on va voir comment réagissent les Français. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance, en période de gros stress géopolitique, à revenir sur le livret A, quel que soit finalement son rendement. Et la deuxième chose intéressante, c'est que tu disais dans ton enquête, les gens, il y a une désaffection pour le PER. Alors effectivement, on peut pas retirer ses sous du PER parce qu'on est obligé d'aller jusqu'à la retraite.
Oui, en je revanche, voulais dire PEA.
Mais tu as raison. Mais même sur le PER, tu as raison. Ouais. On peut ne pas verser. Ça, c'est possible. Ouais. Donc ça, effectivement, les gens peut-être le font moins. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nos Français, on les changera pas. Ils regardent le rendement et c'est bien. Ils regardent aussi la fiscalité. On peut pas leur jeter la pierre.
C'est sûr.
Et effectivement, la fiscalité du PER. C'est durci en février, puisque la flat tax est passée pour le PER de 30 à 31,4. Donc, quelque part, j'allais dire, c'est pas incohérent tout ça.
Ouais. Ce qui est un peu fou, hein, parce qu'on pourrait parler quand même sur la petite hausse prélèvement CSG de quelque chose de modéré. Ouais. On avait dit même à cette antenne que franchement, on limitait la casse. Ben non. Alors, finalement, c'est un impact, Gaël ?
Il y a eu un double facteur. Mireille évoque effectivement cet aspect fiscal. Il y a aussi la question de la fin de la déductibilité pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Et donc, sans mettre en colère personne devant son poste de télé, on peut comprendre la logique du législateur qui dit... On monte un truc pour vous inciter à mettre de l'argent de côté pour votre retraite.
À 70 ans,
vous êtes à la retraite.
Voilà.
Donc, la déductibilité, stop.
Ouais.
Mais il se trouve que c'est un acquis. Alors, acquis social, acquis fiscal, acquis ce que vous voulez. C'est un acquis pour les gens. Ouais. Et donc, je crois que c'est ça le principal facteur, au-delà de la hausse de la CSG, des petits changements.
Ouais, ouais.
Et donc, quand on interroge les gens sur le PER, d'abord, c'est un carton. Le PER, on a une évolution dans le temps. Donc, on mesure la part de gens, la notoriété. Bon, tout le monde connaît maintenant.
8 millions d'assurés depuis la loi Pacte 2019.
Et voilà, et depuis 2019, nous, on enregistre sur le baromètre, je crois, un doublement, quelque chose comme ça. On est passé de 12 à 25% chez les épargnants. Enfin bref, ça a très nettement progressé. Donc, on a un super produit qui attire les gens, qui les incite à se préparer à la retraite. C'est un gros débat de société, la retraite, et c'est pas fini. Donc, c'est vraiment génial. Mais... quand on les informe de ces petites novations de la rentrée, du début de l'année, avec notamment cette fin de la déductibilité, comme les personnes interrogées qui ont un PER nous disent « la première raison pour laquelle j'ai pris un PER, la toute première, c'est même pas la rentabilité, c'est la déductibilité. » Et donc, si on me le retire, je suis pas d'accord. Et quand on regarde ce que nous disent les plus âgés d'entre nous, eux, ils sont, c'est quasiment tous nous disent « je vais arrêter ». Donc, sur le PER, on peut aussi avoir cet impact qu'on enregistre sur le livret pour d'autres raisons.
Et puis, Marion Chapelle-Massot, ce qui est très important, et c'est aussi ce qu'on dit à longueur d'émission, et avec vous notamment, c'est que un placement de long terme, certes, ok, la fiscalité, c'est le cadeau bonus, mais globalement, la stratégie, c'est on choisit un produit pour le rendement et pour le terme, l'horizon d'investissement. Et après, éventuellement, la fiscalité nous arrange ou pas. Là, on a une forme d'invalidation.
Parce que en fait, pourquoi le PER a fait un carton ? Parce qu'il y a une mécanique fiscale dessous. C'est ce que tu disais à juste titre. Et je crois que là, en termes de conseils, certains épargnants se sont trompés. Parce que le PER, solution parmi tant d'autres en gestion de patrimoine, pour son patrimoine, pour épargner la retraite. Mais c'est pas une solution miracle. Non seulement on vient de voir que la fiscalité peut changer, c'est quand même un sujet en France où la rétroactivité, parce que on a souscrit en PER il y a 2 ans, aujourd'hui la fiscalité a changé sur ce PER, et comme on est dedans bloqué, entre guillemets, sauf les 5 cas exceptionnels de sortie, qui sont les accidents de la vie et l'acquisition de la résidence principale, on est finalement contraint de supporter cette fiscalité future, et on ne sait pas, pour les jeunes épargnants, ce que sera la fiscalité de demain.
Super intéressant.
Dans 20 ans, quand vous allez sortir de votre PER, quelle sera la fiscalité ? On n'en sait rien. Et aujourd'hui, je pense que, encore une fois, le débat de la pédagogie sur l'investissement, sur les produits... On a vendu ça comme un produit retraite. un produit retraite. Mais sauf qu'il faut revenir à l'essentiel. Parlons de stratégie retraite.
Bah,
et
ça.
Quand on monte une stratégie retraite, on a certes peut-être un PER, mais on a aussi d'autres outils qui nous permettent de voir plus loin et de sécuriser la frénésie fiscale.
Mireille, vous pensez aussi qu'il y a eu une forme d'erreur d'aiguillage du côté du PER, que on sait peut-être, certains ont
peut-être trompé. Non, mais écoutez, moi je suis assez d'accord avec le législateur, en fait. On
d'accord.
a mis en place, enfin, alors après, la flat tax, elle augmente, ça c'est sûr.
Oui.
Bon, ça, on n'y peut rien. Et ça, c'est ce que dit Marion, effectivement. Moi, j'ai souscrit un PER. Au moment où je l'ai souscrit, on me dit, les gains que tu auras sont taxés à 30%. Bon, bah, quand je sortirai, ils seront à 31,4 et peut-être plus au moment de ma retraite. Ça, c'est une chose. Pour le reste, le fait de dire, quand vous versez des cotisations à partir de 70 ans, elles ne sont pas déductibles, je trouve ça assez cohérent. Normalement, c'est pas fait pour ça, le PER. Et on a eu le temps de c'est pas à 70 ans qu'on prépare sa retraite. On peut le faire, mais on a d'autres produits à ce moment-là. Le PER, cet avantage fiscal, c'est la contrepartie d'un blocage. Le gouvernement vous dit, tu vas verser ton argent et tu pourras le récupérer à la retraite et seulement à la retraite, sauf cas de déblocage. Et en contrepartie, il nous a donné un avantage fiscal. Sinon, on n'y allait pas. Sinon, on avait l'assurance vie qui fait exactement le même effet, mais qui n'est pas bloqué.
D'accord.
Donc moi, je trouve que le fait de dire à 70 ans, les versements sont plus déductibles, je trouve ça cohérent, oui.
Après, ouais, mais... oui.
Antoine, il faut quand même bien remettre l'église au centre du village sur un point. On a une carotte fiscale à l'entrée, mais on est fiscalisé à la sortie quand même.
Oui, bien sûr.
Donc, je veux dire, il y a certains épargnants, je pense, voire investisseurs, qui l'ont oublié, cette partie-là. Parce que le gain n'est réel que si votre tranche marginale d'imposition est supérieure au moment où vous versez, au moment où vous faites les retraits à la retraite.
À la fin.
Si vous étiez imposé à 45% pendant votre vie active, ça marche. Si vous êtes imposé à 30% au moment de la retraite.
Oui.
Parce que au-delà de l'aspect fiscal qui est mouvant, vous allez potentiellement avoir quand même une fiscalité même en cas de retrait. Et c'est vrai que cet outil, on l'utilise en stratégie patrimoniale, désolé, mais on a quand même des stratégies d'optimisation de cet outil qui visent par exemple la protection du conjoint survivant.
Ben, c'est...
Et c'est peut-être ce que le législateur a voulu contrecarrer en supprimant la déductibilité à partir de 70 ans. Parce que si vous laissez et que vous ne faites aucun retrait jusqu'à votre décès, comme le conjoint survivant est exonéré de droit en France, quel que soit l'âge de votre décès, vous versez à votre conjoint une épargne, un capital, en exonération de droit, tout en ayant eu les avantages fiscaux pendant votre vie active.
Donc là, il n'y a que des avantages. Et pendant justement la discussion de la loi de finances, ce point avait été évoqué. Certains des députés avaient dit, on va mettre ça par terre. Donc ça, c'est peut-être le prochain round pour le budget 2027. On verra.
On va encore faire des émissions spéciales, je
crois.
Mais alors, vous restez un petit peu avec nous. On va faire une pause là pour parler un petit peu des arbitrages de marché. Ensuite, j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur les anticipations économiques des épargnants, parce que l'horizon est quand même très très sombre. Alors, c'est toujours le cas en cas d'agitation géopolitique, mais là, ça commence à atteindre un certain nombre de points. Mais on va faire une petite pause. On va parler des arbitrages de marché déjà.
Tout pour investir. Arbitrage.
Valentin Nico, Bourse Direct, bonjour. Un CAC 40 donc qui est en baisse, 8285 points. Mais alors, encore une fois, on va peut-être en parler un petit peu plus en détail dans quelques secondes, mais le CAC 40 arrive quand même à résister à la chute de très fortes pondérations. Et ça, c'est quand même un facteur assez étonnant depuis le début de la semaine. On a vu Total baisser, on a vu des grosses pondérations faire l'objet d'allègements, et le CAC 40 arrive quand même à tenir le coup.
Oui, bonjour Antoine. En effet, c'est comme on le voit sur tous les indices quasiment, on sent que le marché veut être optimiste, sans dire qu'il a forcément raison fondamentalement, mais il veut l'être. Donc là, on est sur un rebond de plus de 10% depuis le début du conflit. Nous, sur la gestion, ça nous a forcé, j'ai envie de dire, à prendre quelques bénéfices et a commencé à être un peu méfiant. Il nous semble que le marché va peut-être un peu vite, sans remettre en question la tendance de fond. Et on aurait peut-être tort de mettre en place des couvertures si le conflit s'arrêtait d'ici la fin de semaine éventuellement. Mais en tout cas, on préfère, depuis les 8300 points, l'envisager. Donc, on sort de quelques dossiers et on a des couvertures de court terme. Parce qu'encore une fois, l'optimisme, c'est très bien, mais il faut quand même qu'il soit un petit peu justifié. Et on a toujours, hein, les prix de l'énergie, le niveau de financement qui reste très négatif pour l'ensemble de l'économie. Donc voilà, on reste là, on se met un peu en position de méfiance. Et en effet, hein, la résilience du CAC malgré la correction sur le luxe. Bon, après, on va attendre quand même la fin de séance parce que on l'a vu sur LVMH où l'ADR faisait moins 3% sur la publication qui s'est repris en séance pour finir quasiment flat. Donc, on va voir si les baisses se maintiennent en cours de séance, mais encore une fois, ouais, comme vous le dites, le marché est assez surprenant par son optimisme.
Oui, parce que pour ce qui est du secteur du luxe, c'est vrai que je fais comme vous, je regarde un petit peu la réaction sur les ADR côté à Wall Street, alors que la séance est terminée du côté de Paris, on a eu des réactions assez étonnantes. C'est vrai que Kering tenait bien le coup hier soir, et puis c'est vraiment en avant-marché ce matin que les gros ordres de vente sont arrivés. Pareil pour Hermès, d'ailleurs. Alors, on a vu qu'LVMH, par exemple, avait beaucoup mieux résisté lors de la séance d'hier. Mais je dirais que là, il y a peut-être une question de valorisation. On est au-delà des 30 pour Kering et Hermès. LVMH est plus du côté des 20. Donc là, c'est vraiment de la prise en compte de valorisation, sans doute. Mais vous pensez... Enfin, Hermès a enregistré une baisse de 13% à l'ouverture et c'était historique. Mmh. Maintenant, on réduit les dégâts là, en ce moment. On pourrait imaginer que finalement les titres terminent flat, ça paraît dur. Quand
alors terminer flat, non, tout de même pas. Parce que bon, c'est vrai qu'LVMH était moins 3, on a fini flat, donc c'est pas, il y a pas la même amplitude, pour revenir à zéro. Malgré tout, on revienne sur quelque chose qui est beaucoup moins choquant, je serais pas du tout étonné d'ici la fin de séance. Ça dépendra bien sûr de l'ouverture américaine. Et donc, encore une fois, pour l'arbitrage global, nous, là, sur le marché, on va peut-être décider de faire une pause sur les actions et essayer d'aller chercher de la performance là où il nous semble avoir un peu plus de possibilités. On regarde les matières premières agricoles et notamment le café et le cacao ce matin qui donnent des signaux plutôt positifs et avec un upside super important parce que bon, mis à part quelques dossiers Capgemini est en train de démarrer avec l'ensemble du secteur un peu une figure de retournement, mais pour nous il y a toujours pas de signal. On voit que Stellantis aussi vit bien dernièrement, maintenant on n'est pas du tout certain de la confirmation de la figure, donc on reste un peu à l'écart et on se concentre peut-être sur autre chose qui a plus de potentiel.
Ouais, c'est vrai que Stellantis signe un très très bon score depuis le début de la semaine. Dernière chose, Valentin, ça vous étonne pas que le VIX, l'indice de volatilité américain, soit retombé à des niveaux qui prévalaient avant même le début des frappes en Iran? On est du côté des 18 points. Donc la volatilité quantifiée en elle-même, là pour l'instant on a des marchés qui, et le CAC 40 répond un petit peu à cet appel, qui effectue relativement peu d'écart. Et c'est étonnant, ou vous pensez que c'est tout simplement parce que les principaux intervenants, les fonds quantitatifs, etc., sont suffisamment couverts et que pour l'instant, le marché retrouve un peu de calme?
Alors, je vous évoquais mon interrogation sur l'optimisme global de marché. Ouais. Et le VIX est bien sûr une bonne représentation de cela. Et en effet, on sent que ce marché veut croire non seulement à la fin du conflit et de manière rapide, mais potentiellement aussi une réorganisation globale du marché, un impact... très bas sur les marges globales économiques des prix de l'énergie. Si le marché le pense, c'est qu'en général il y a quand même une grande chance que ça soit le cas. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, avoir la garantie de cette fin de conflit aussi rapide me semble peut-être trop optimiste. Ça c'est les quelques semaines qui vont arriver, voire peut-être quelques jours, on n'en sait rien, sur les dernières nouvelles, nous montrerons peut-être le contraire. Et le marché aura encore une fois raison, mais on peut pas le deviner d'avance.
Oui, pour l'instant, Donald Trump est toujours en train de dormir et a pas touché son téléphone, donc A priori, pas trop de mouvement de knee-jerk, comme on dit, à prévoir. Moins 0,65% pour le CAC 40, une baisse contenue, 8 273 points, mais toujours beaucoup de pression autour du secteur du luxe. Et sur les deux derniers à avoir publié leurs chiffres de vente, Kering, moins 9,9%, on est à 252,30 €. Hermès, moins 8,38, 1633,50 €. Merci beaucoup, Valentin, Nico, Bourse Direct. Restez avec nous. 30 secondes de réclame et ensuite, on revient un petit peu avec Marion Chapelle-Massot de Decarion et Gaël Sliman de Doxa sur ce baromètre des épargnants et surtout sur les horizons et les perspectives économiques. Je ne vais pas vous divulgâcher la suite, mais globalement, vous, épargnants, ne voyez rien de bien bon à venir sur les prochaines semaines, mais on va quantifier tout ça avec un petit peu d'attention. À tout de suite, restez à l'écoute de BFM Business.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Oui, déchiffrage encore, on joue un petit peu les prolongations parce qu'il y avait quand même beaucoup d'enseignements vraiment super intéressants de ce baromètre de l'épargne Odoxa Groupama et Gaël Sliman qui est resté avec nous, ainsi que Marion Chapelle-Massot de Decarion. Il y a quand même, moi, une donnée qui me saute aux yeux, c'est quand même un tiers des épargnants français a modifié ou veut modifier son épargne à cause de la guerre en Iran. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait en début d'émission, on est quand même les premiers à dire toute la journée. Paniquez pas, ne touchez pas à vos allocations long terme, c'est pas parce que c'est la guerre, c'est pas parce que c'est la crise financière, c'est pas parce que il y a le crédit privé aux États-Unis qui menace, qu'il faut changer quoi que ce soit à vos allocations. Gaël, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette donnée ?
On peut dire que tous les experts de l'épargne, Marion en face de moi, Groupama, qui est le partenaire de notre baromètre, tous les gens qui travaillent autour de l'épargne vont avoir du boulot, ont un potentiel schumpeterien, on va dire, hein, destruction créatrice, de la crise peut naître des opportunités, parce que il y a une attente de la part des épargnants, soit, c'est ce que vous présentez, vous avez raison Antoine, pour une majorité d'entre eux, plutôt frileux, qui ont peur et qui se disent, j'aimerais avoir une épargne sûre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, je crois plus au livret, à l'assurance vie, enfin aux produits classiques vers lesquels on allait.
C'est ça.
Et donc, j'aimerais bien savoir où ce que je peux faire de mes sous. Et puis, il y a les quelques-uns, les clients de Marion peut-être, ou quelques-uns de ses clients, qui se disent, de ces situations de crise peuvent naître des opportunités d'investissement. Alors, on parle de gens qui ont plus d'argent et qui peuvent prendre peut-être davantage de risques, et qui eux aussi, dans des contextes comme ceux-là, ont besoin de conseils. En tout cas, c'est ce que nous disent les épargnants pour une majorité d'entre eux. 53% des épargnants et 56% de ceux qui épargnent le plus nous disent qu'en ce moment, ils auraient bien besoin d'être accompagnés et conseillés. Et on a par ailleurs sur une autre question, 80% des Français qui nous disent que oui, c'est le rôle quand même de toutes ces boîtes qui accompagnent les gens, les banques, les assurances, les conseillers en gestion de patrimoine, de mieux former, mieux expliquer aux gens pour qu'ils soient moins perdus.
Marion Chapelle-Massot, là, je me tourne vers la pro du patrimoine. Ouais. C'est précisément, oui, dans ces moments-là, qu'on a besoin d'aller voir son conseiller pour que, déjà, il tempère les choses et qu'il nous empêche de faire... Parce que, voilà, modifier son épargne, modifier ses investissements de long terme parce qu'il y a la guerre, parce que ceci, cela, il y a peut-être des opportunités, mais il y a aussi, et on l'a vu tout à l'heure avec le PEA, on peut se tromper. On peut faire des erreurs d'aiguillage, surtout à cause d'un environnement très lourd. Et je suppose que votre rôle joue à plein en matière d'éducation financière, de tempérance et d'un peu d'explication, tout ça, aux clients.
Oui, alors c'est sûr que l'éducation financière, pour nous, chez Decarion, est primordiale. Et d'ailleurs, je me déplace régulièrement dans des collèges, des lycées, pour aller expliquer, ma dernière en date étant dans une classe de CM2, donc des enfants de 10 ans, expliquer ce qu'était une tirelire et pourquoi laisser son argent dans la tirelire. N'était pas forcément un bon plan pour eux. Je crois qu'il y a un gros manquement en France sur l'éducation financière et que c'est des matières qui devraient être enseignées dès le plus jeune âge, en prenant des concepts simples. Ça, c'est le premier point. Et en plus, pourquoi pas, pour les gens qui ont la faculté de faire des études supérieures, là, on passe encore des caps où on a des chefs d'entreprise, notamment des professions libérales, des médecins, qui n'ont jamais étudié une déclaration d'impôt. Et qui sont donc des personnes potentiellement qui vont gagner beaucoup d'argent et qui ne savent même pas ni comment investir, ni pourquoi, pourquoi ils travaillent et comment ils vont être imposés. Donc ça, c'est vraiment un gros manquement à notre système. système et donc on le prône et j'en fais souvent la publicité. Je souhaite vraiment que qu'on progresse là-dessus. Ensuite, il est clair que en matière de pédagogie, c'est quasiment 50% de notre métier. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la volatilité le problème, la volatilité. Dès qu'il y a un marché volatile, quelle qu'en soit la cause sous-jacente, on a des peurs, des angoisses qui remontent, etc. Et surtout, envie de vendre. Parce que quand les marchés baissent, c'est bien simple, quand les marchés montent, on pense qu'on a tout bon. Quand les marchés baissent, on pense qu'on a eu tort.
Faux,
voilà. Sauf que la seule façon de régler ce problème, c'est d'avoir un cap, une stratégie. Le cap, la stratégie, c'est d'avoir une stratégie court terme pour les dépenses courantes, une stratégie moyen terme pour prendre un peu de risque, mais qui reste liquide, et une stratégie long terme pour prévoir sa retraite et peut-être avec des placements qui sont moins liquides, comme type le private equity.
Des trucs un petit peu plus risqués, mais où le temps est votre allié, justement.
Voilà.
Et puis voilà.
Mais après, nous, on adore la volatilité, parce que sans volatilité, il n'y a pas de marché.
Il y a peu de performance,
Il y a peu de performance, il n'y a pas de prime de risque. Et encore une fois, la volatilité révèle aussi de la bonne stratégie. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes de clients angoissés qu'on rassure toute la journée, et c'est notre quotidien depuis un mois.
Un dernier mot, Gaël, sur l'horizon. Alors, vraiment l'horizon qui est bouché, et puis l'épargnant qui est quand même...
Alors oui, une illustration quand même en chiffres de ce que disait Marion il y a un instant, sur l'aspect pédagogie, je l'ai dit d'un mot, mais pour y revenir très clairement, vous parliez de l'école, 70% des Français nous disent qu'ils aimeraient bien qu'on fasse ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on vienne à l'école et qu'on enseigne davantage aux enfants, aux jeunes, la culture financière.
Bac plus 4, je suis sorti de la fac, je ne savais pas faire la différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Je ne savais pas remplir ma feuille d'impôt. Je ne savais pas lire ma feuille de paye. Bon.
Alors, deuxième niveau, 72% des Français nous disent, et puis quand même, les entreprises, ce serait bien qu'elles puissent un petit peu plus faire de pédagogie auprès de leurs salariés. Et puis le troisième niveau, je l'avais dit tout à l'heure, c'est 80% qui nous disent qu'ils aimeraient que les acteurs de l'épargne, les banques, les assurances, les conseillers en gestion de patrimoine, fassent davantage le job encore là-dessus. Et après, un mot quand même d'optimisme, on est dans cette situation, mais on cumule les pires. Crise politique française depuis 2 ans avec impossibilité de prendre des décisions au niveau gouvernemental depuis la dissolution. Crise internationale, on va bientôt sortir de tout ça. Donc des opportunités vont naître.
Et puis, jamais oublier que si on décide de tout vendre pas sous prétexte que le marché baisse, on loupe toutes les reprises en V. Et là, les chiffres le prouvent, depuis 2020, notamment depuis le Covid, si on se met à se désexposer au marché comme ça d'un coup, on loupe de la performance, puis souvent on peut perdre de l'argent. Ouais. Merci infiniment. Je crois qu'on a fait le job en matière de pédagogie et puis prendre le pouls un petit peu du moral des épargnants. Marion Chapelle-Massot de Carillon, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Gaël Sliman de Doxa pour cette étude dont vous pouvez retrouver en podcast et en replay cette chronique et ce baromètre toujours très précis au Doxa Groupama. On va passer à l'intelligence artificielle dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Et puis toujours des interrogations autour des perspectives de l'intelligence artificielle. Alors, en termes industriels, qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur ? Qu'est-ce qu'elle va disrupter ? C'est une des grandes questions depuis quelques semaines. Et puis, comment on y investit ? Et pour nous, comme régulièrement, on a Vincent Aurès de Figenai. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour expliciter un petit peu tout ça. On sort d'un baromètre, on va rentrer dans un autre baromètre. C'est celui de l'université de Stanford, aux États-Unis. Ben oui. Où va l'intelligence artificielle ? Il y a 10 enseignements maîtres qui sont vraiment quantifiés et que vous pouvez retrouver, bien entendu, en podcast et en replay. On va énumérer un petit peu tout ça. On entend que les capacités de l'intelligence artificielle sont en train d'exploser. Est-ce qu'il a changé en un an ? Et est-ce qu'il y a une forme de plafonnement de tout ça qui est en train d'apparaître ?
Alors, heureusement ou malheureusement, pas du tout. C'est même le contraire.
Sky's the limit.
Sky's the limit. Et en fait, ça s'accélère. Ce qu'on voit, c'est que les modèles à des échéances de temps de plus en plus courtes deviennent de plus en plus puissants. Pour vous donner un exemple très concret, et on voit l'impact sur l'emploi notamment, c'est les développeurs informatiques. Les développeurs informatiques utilisaient déjà l'année dernière des modèles d'IA qui les aidaient grandement. Ces modèles informatiques, on va dire qu'ils avaient environ 50% dans des tests de développement informatique. Mmh. Ils atteignaient ce succès-là, 50%. Désormais, on est plutôt proche des 100% que des 50%. Et dans un an, eh bien, on verra le rapport de Stanford dans un an. Mmh. Fort est à parier que les modèles deviendront encore plus puissants que le meilleur des développeurs informatiques humains.
Bon, et ça, c'est pas fait n'importe comment, c'est pas du doigt mouillé, on se base sur l'évolution des modèles de programmation. Et c'est là-dessus que Stanford est archi fort.
Oui.
Et là, on a des données vraiment précises. Et
effectivement, il faut littéralement vous imaginer qu'il y a d'ailleurs des compétitions, hein, y compris donc en développement informatique, où vous mettez les 10 meilleurs développeurs informatiques sur une thématique donnée et vous faites tourner un ordinateur qui a un modèle d'IA. C'était un peu Gasparov avec les échecs il y a quelques années. Alors, ce n'était pas vraiment les mêmes modèles, mais on peut imaginer ça.
Quand contre Deep Blue d'IBM.
Bah voilà.
Oui. Alors, c'était ça.
La nouvelle, c'est qu'on est en train de faire ça, Deep Blue, mais pas aux échecs, en développement informatique,
voilà.
En raisonnement juridique, en raisonnement financier, en allocation. Et on est en train de faire des parties d'échecs un peu partout. Et on voit qu'il reste des Gasparov, mais qu'il va falloir peut-être changer notre manière de jouer aux échecs ou autre.
Je voudrais juste parler un petit peu du phénomène de disruption auquel on a assisté ces derniers mois, notamment concernant l'ensemble du secteur des logiciels.
Oui.
On a vu qu'on était arrivé à une sorte de fond de cuvette là, ces derniers jours, avec des indications intéressantes. Il y a Blue Wall Capital qui a beaucoup investi en dette privée sur le secteur des logiciels, qui s'est fait disrupter par l'IA et c'est une problématique. Ils arrivent à nouveau à lever de l'argent, 400 millions. Alors certes, avec un gros acteur qui se déclare. On a Thomas Bravo, on en a parlé hier dans l'émission, qui revient aussi sur le secteur des logiciels en disant non, arrêtez, la disruption va y en avoir, mais les logiciels, c'est les principaux utilisateurs et architectes de la mise en œuvre de l'IA concrète au sein du monde de l'entreprise et de l'économie. Est-ce que vous pensez que le marché en se livrant à ce jeu de massacre ces derniers mois, c'est pas finalement complètement gouré?
Je pense, comme dans tout phénomène de bulle, les bulles ont leur vertu aussi, des fois, avec une allocation du capital. Et puis en même temps, les bulles ont leur mythe. Et c'est sans doute l'un des mythes et on est en train de s'en apercevoir.
Et c'est pas souvent qu'on a cette forme de bulle destructrice. D'habitude, la bulle, ça crée de la valeur. Là, ça en a détruit.
C'est vrai. Et ça va peut-être même continuer. Regardons ce qui se passe dans le domaine de la cybersécurité avec les derniers modèles d'IA, notamment le modèle d'Anthropic, qui semblerait, détecte des failles dans des logiciels qui étaient reconnus et très utilisés, là où aucun humain n'y était arrivé. Et donc, on va peut-être passer encore plus à ce phénomène que vous décrivez, avec de la disruption, avec beaucoup de volatilité finalement, sur les marchés, notamment les marchés du logiciel. Est-ce que ça veut dire que le marché du logiciel est fini? Je crois pas, notamment pour cette question de cybersécurité. Mmh. Tout le monde peut désormais, avec son téléphone, coder une application qui va faire sensation dans un dîner et qui va pouvoir faire tout un tas de choses. Néanmoins,
cela étonnera vos amis. C'était l'argument maître des années 80.
Et voilà, alors on peut étonner énormément ses amis aujourd'hui avec de l'IA. Maintenant, on peut, si on a une entreprise et si on est investisseur dans une entreprise, on préfère qu'il y ait des architectes en cybersécurité qui font peut-être tourner des modèles d'IA pour s'assurer. Les incidents en cybersécurité, c'est ce que révèle encore ce rapport, ont quasiment doublé en nombre d'une année à l'autre. Et avec ce qu'on est en train de se dire, eh bien, ça va encore et encore se multiplier.
Alors, on repasse à cette étude de Stanford, parce qu'elle est quand même super intéressante et on pourra en parler des heures, mais on dézoome. On a le globe terrestre.
Ouais.
Globalement, c'est qui contrôle la course à l'IA en ce moment? Est-ce que c'est les États-Unis? La Chine ne dit plus rien depuis des mois, mais quand la Chine dit rien, c'est qu'elle prépare un truc.
Alors,
C'est qui est dans le lead, quoi, finalement, dans l'inspiration?
Dans le lead de l'allocation du capital privé, il n'y a pas à dire les États-Unis. Les États-Unis, c'est 10 fois plus de centres de données, au moins, que le reste du monde. Donc, c'est énorme.
Mais voilà.
Finalement, est-ce que ce qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, en tant qu'entreprise qui utilise de l'IA, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce que je veux, c'est le modèle peut-être le moins cher, le plus performant, ou alors le plus performant. Et là, on s'aperçoit, sur des plateformes d'ailleurs dirigées par des Français, comme Hugging Face, eh bien on voit que les modèles chinois, c'est en moyenne 2% de performance, en moyenne, inférieur aux modèles américains. 2% de performance en moins, mais ils sont libres. ils sont quasiment gratuits si on a de quoi les faire tourner, et ils rattrapent à chaque fois de plus en plus.
Bien sûr.
Et donc, si on regarde l'allocation du capital privé, on voit les États-Unis, si on voit ce qui est utilisé et ce qui a de l'avenir, je miserais plutôt sur un duopole américain et chinois.
Et au milieu de tout ça, c'est les cerveaux, bien sûr, et les brevets. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Et là, brevets, licences et nombre de modèles, ouais. La Chine surpasse tout le monde. Elle est aujourd'hui leader du nombre de brevets.
Bon, ça, c'est à retenir. On termine juste par des considérations en matière d'évolution. Est-ce que l'adoption de l'IA est toujours sur une tendance exponentielle? Ou est-ce que, moi je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disent « Oui, on a adopté l'IA pour faire ci et ça. » Deux mois après, ils disent « Oui, bon, on a remis des humains parce que ça ne marche pas, votre truc. » Bon, tout ça, c'est des chaos au démarrage.
Oui.
Mais la tendance de fond, elle reste toujours à une adoption sur une courbe exponentielle.
Si on regarde adoption de l'ordinateur, de Internet, des téléphones portables et de l'IA, l'IA est sans commune mesure la technologie qui a la plus forte et rapidité d'adoption. 53% des gens l'utilisent aujourd'hui dans le monde en 3 ans de lancement, après 3 ans de lancement.
Ouais.
Pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'ordinateur, c'était environ 35% au bout de 3 ans. Et pourtant, les ordinateurs commencent à être utilisés. Là, plus d'une personne sur deux, ça y est, a commencé à l'adopter. Alors, pour les entreprises, et puis en tant qu'investisseur dans ces entreprises, je pense qu'il faut regarder une chose, c'est est-ce que c'est accompagné d'un plan social? Et là, là, je dirais attention au marketing.
Vaste question.
Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une communication? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un vrai plan long terme sur l'IA? Par exemple, voilà ce que je vais faire de la masse des salariés que je vais petit à petit automatiser. Et voilà le plan de formation. Et j'ai vu ici même des chefs d'entreprise en parler avec une vision long terme. Donc je pense qu'il faut regarder, même quand on n'est pas forcément spécialiste de l'IA, de quoi s'accompagne cette annonce et on détectera, est-ce un investissement, est-ce une vision long terme ou est-ce un petit maquillage?
C'est très intéressant parce qu'on voit que l'IA peut avoir des illusions et dérailler sur un certain nombre de trucs. On voit que les entreprises ont un petit effet illusion justement sur cette transformation de l'adoption de l'IA en productivité et voire en écrémage.
Oui.
Et voilà, le vrai et le faux, de toute manière, on le voit sur le long terme. Et, écoutez, merci. C'était encore une fois passionnant. Vincent Aurès, président de Figen AI. On va passer de l'IA à la high-tech rétro. On va reparler du Nokia 3210. On va reparler de votre vieille iPod. Tout ça a de la valeur, figurez-vous. Et c'est une vraie passion française. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Tenez, vous venez d'entendre François Sorel. Il a fêté, il n'y a pas très longtemps, avec une édition spéciale de Techco, les 50 ans d'Apple. Oh, c'était passionnant. Vous pouvez le retrouver sur le site en replay, en podcast. On va partir de là, finalement, avec Valentin Klein di Giacomo di Zicash. Bonjour.
Bonjour.
Donc, on va parler du marché de la seconde main et de ces petits marchés passion qui vous intéressent. On a parlé, il n'y a pas très très longtemps, du rétro gaming, donc de ces vieilles consoles de jeux qu'on avait quand on était petit, qu'on retrouve avec plaisir quand on a vieilli et qui ont de la valeur, surtout si elles sont d'une édition spéciale, s'il y a des jeux un petit peu particuliers qui sont un peu rares. Et on se rend compte finalement, et c'est vrai que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, qu'on se passionne de plus en plus pour la high-tech rétro. Votre vieux Nokia 3210, vous savez, celui qu'on retrouvera dans 5000 ans, il y aura toujours une barre de batterie. vos vieux iPods. Vous retrouvez un vieil iPod dans un tiroir. Il y a la vieille playlist des années 2000 quand c'est sorti. Tous ces objets qui constituaient le summum de la modernité il y a 10, 20, 30 ans. Moi, je parle du Walkman Sony jaune qu'on pouvait même utiliser dans l'eau.
Oui.
Ou pour faire du sport parce qu'il résistait aux vibrations, etc. Tous ces objets, c'est en train de s'arracher sur le marché de la seconde main. Et c'est ce que vous êtes venu nous dire aujourd'hui, Valentin.
Exactement. Alors, on constate deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a un peu une Madeleine de Proust, des gens qui ont envie de revivre finalement ces anciens appareils. Et on oublie que globalement, un téléphone peut avoir une semaine de batterie, puisque maintenant, avec les smartphones, c'est plus grand le cas.
Oui.
Donc, c'est le cas du Nokia 3310.
Tout à fait.
Donc, il y a cette approche. Et il y a aussi une approche low-tech où il y a des gens qui souhaitent finalement revenir à l'essentiel. Par exemple, nous, on vend encore des iPhone 6. Donc, c'est des iPhones sur lesquels vous pouvez plus installer d'applications. Mais on oublie qu'un téléphone, ça permet de téléphoner, de prendre des photos, d'écouter de la musique également. Typiquement, on a une clientèle, par exemple, de parents pour leurs enfants qui ne souhaitent pas exposer à Internet ou aux applications qui leur offrent ce type de produit. Donc, on a vraiment deux types de clients. Des clients qui ont envie de revivre, on va dire, qu'ils ont apprécié dans le passé et des clients qui veulent du coup avoir une approche un peu plus simple sur la technologie.
Alors cet aspect low-tech, il est loin d'être un phénomène de mode, hein. C'est aussi une nécessité, les sursollicitations des derniers téléphones qui sont... Comment ça se fait que l'iPhone 6 en particulier ait cette cote sur le marché de la seconde main?
Et ben finalement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une demande. Donc à partir du moment où il y a une demande, on est capable de proposer un prix d'achat assez intéressant. Et surtout, il y a un prix de vente. Là, je regardais avant de rentrer dans l'émission, c'est un téléphone qui vaut encore 50 euros. Pour autant, c'est un téléphone qui est sorti en 2012. Et donc il a 14 ans.
Ouais.
Et on peut imaginer également qu'il va prendre de la valeur dans le temps, puisqu'on se rend compte aussi qu'ensuite il y a le phénomène du rétro, rétro gaming. Il y a aussi ces produits qui prennent de la valeur. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des produits qui, dans vos tiroirs, vous rendront de la valeur dans les années à venir.
Ah, c'est vrai qu'on parle vieux Walkman, on parle Ghetto Blaster, ces énormes radiocassettes. Moi, j'en ai vu dans des magasins d'occasion, ils sont sublimes. Des Akai, des Sharp. Mais même, on se met à retrouver des vieilles marques qu'on n'avait plus l'habitude d'acheter ou de voir dans les magasins. J'y pense. Sony vient d'arrêter de fabriquer des télévisions. Ils viennent de filer ça à TCL, sous-traitant chinois. On se met à retrouver des marques et on se met à retrouver des inspirations qui n'existent plus dans le monde actuel, finalement. Et c'est là que se situe la plus-value.
Tout à fait. Bah, typiquement, vous avez pris l'exemple de Nokia. Nokia a arrêté sa production en 2010, donc il y a 16 ans.
Ouais.
Et on voit que c'est des modèles qui reviennent à la mode. Donc c'est exactement un exemple concret sur la téléphonie. On l'a également sur les consoles, on avait parlé, les Neo Geo, donc des consoles qui n'existent plus. Enfin, la marque n'existe plus aujourd'hui.
Ouais. Et qui était très rare d'ailleurs à l'époque en France. Ouais.
Mais il y a vraiment un phénomène de mode. On l'a également sur les bijoux vintage avec certaines formes. Par exemple, on appelle ça les bagues tank, qui ont un certain format, qui sont des vieux modèles de bijoux qui reviennent énormément à la mode.
C'était une marque de quartier, tank.
Oui, et puis surtout, c'était une forme de montre, de bague qui était rectangulaire, très particulière, et donc qui revient énormément à la mode. Donc, c'est vraiment les joies de la deuxième main, c'est qu'en fait, tous les produits ont une valeur, et surtout, tout le monde peut trouver son bonheur. Et c'est ça qui fait vraiment le côté génial de ce métier.
Alors, vous parliez du Nokia, alors je me suis gouré, c'est le 32 ou le 3310?
Les deux.
Les deux.
Tout à fait.
Les deux se valent. Et ça, par exemple, c'est. Alors, on a parlé de l'iPhone 6, on peut en trouver pour 50 euros, mais il marche encore super bien. Et puis, il est peut-être plus stylé que les modèles actuels. Hein. Il y avait une vraie qualité, il y avait plus d'usage de métal, machin, etc. Nokia, c'est vrai que c'est une marque qui n'existe plus et qui était synonyme de durabilité. Ça s'échange à combien les 3210, les 3310?
Alors justement, en ce moment, par exemple, on n'a pas de 3310, donc ça montre bien qu'on est en demande.
Des produits
qui pourraient nous intéresser. Ouais. Ça va dépendre de l'état esthétique du produit, évidemment, puisque souvent, ils sont un peu âgés, donc il est probable qu'ils soient un petit peu abîmés. Mais dans le cas où il est au bon état, ça peut vite monter. On peut se retrouver avec un téléphone qu'on appelait un dubphone, donc un smartphone, sur lequel on peut le vendre 50 euros, 60 euros, parce qu'il y a des clients qui veulent ce type de produit, ils veulent pouvoir être appelés pendant une semaine sans le recharger, et ils sont friands de ce type de modèle.
Bon, il faudra prendre ceux qui sont 3G, je ne sais pas s'il y en a, parce que la 2G, c'est fini.
Ça va être notre problème maintenant.
Ouais, c'est là qu'il y a des cassures de prix et des cassures d'intérêt, c'est comme sur tous les marchés, il faut les détecter. Je vois qu'il y a encore de l'attrait aussi pour les CD, pour le Blu-ray. Chez moi, je dois avoir un vieux lecteur de laserdisc qui traîne, vous saviez, les énormes galettes comme ça qu'il fallait retourner à la moitié du film.
C'est un peu plus compliqué maintenant.
Ouais, non, ça c'est très compliqué. Mais le support physique aussi, c'est un axe de développement justement de cette rétro-tech, parce qu'on a besoin de l'objet en vrai. Et j'ai l'impression que c'est à la fois concurrent, mais aussi complémentaire de l'usage de la musique qu'on a, les téléchargements, etc. On aime avoir l'objet.
Exactement, vous seriez étonné donc à l'heure du streaming, des plateformes VOD, de savoir que chez EasyCash, on a vendu l'année dernière plus de 1,8 million de DVD Blu-ray, donc ce qui est quand même assez conséquent, 300 000 CD, 60 000 vinyles.
Ouais.
Donc on voit bien qu'il y a des gens qui sont attachés à ce support. Alors évidemment, le prix de vente a tendance à baisser, puisque ce sont quand même des produits sur lesquels la valeur intrinsèque du produit baisse, mais on voit qu'il y a encore une forte demande sur ces produits. On a des coffrets CD qui deviennent collectors, pour le coup, donc ça rejoint un peu le rétro.
Ouais.
Des collectionneurs qui cherchent des coffrets, avec par exemple sur des séries particulières, sur lesquelles on peut avoir plusieurs centaines d'euros sur certains produits. Donc il y a vraiment un retour à la plateforme, enfin au support physique, et on voit que malgré encore une fois le développement du streaming qui est certain, on a vendu encore 1,8 million de DVD.
Et puis je dirais, c'est sur les coffrets DVD éventuellement collector, c'est à la fois le support mais aussi le sujet marquées collector, c'est-à-dire que c'est souvent des séries un peu années 80, je sais pas, arabesque, des choses comme ça. Non, mais
je suis pas capable d'en citer, mais dans l'idée,
comme ça.
C'est exactement
ouais.
ça.
Non, mais c'est à la fois le sujet et l'objet. Donc là, téléphonie, high-tech, même bijouterie, vous voyez d'autres tendances se dessiner doucement sur ce marché du rétro?
Bah, finalement, on se rend compte qu'à peu près n'importe quel produit peut devenir désirable. Donc finalement, l'intérêt de la deuxième main, c'est de capter ce marché s'il apparaît. Donc ouais. à l'instant T, on a déjà pas mal de catégories. On a les appareils photos aussi qui reviennent, les appareils photos, on va dire.
Les argentiques. Anciens,
oui. Ouais. Ou même les premières générations d'appareils photo numériques, en fait, qui ne risquent rien. Donc par exemple, vos enfants.
Les Canonéos.
Ouais, partent en colonie, bah, vous pouvez leur offrir un appareil photo numérique. Il suffira largement et sur lequel vous n'aurez pas l'inquiétude de le faire tomber dans l'eau, par exemple. Donc nous, on est là pour capter ce marché. S'il y a une demande, bah, on organise l'offre. Et puis, donc c'est. À l'instant T, il y a déjà pas mal de sujets. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur.
Bah, vous reviendrez nous en parler. Hein, parce que ça nous intéresse. La high-tech rétro, hein, mais franchement, ça, c'est un truc qui vous passionne. Et c'est vrai que c'est assez passionnant et que ça me passionne personnellement. On va pas se le cacher. Donc voilà, merci infiniment,
merci
Valentin Clindy Giacomo, Easy Cash. Et revenez quand vous voulez. D'ici là, 15h30, je vous retrouve aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Et dans une seconde, c'est Marie-Cœur de Roy qui prend le relais pour les experts IMO. À tout à l'heure sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.